Le lendemain, lorsqu'on se retrouva dans la salle de l'auberge, Madame Blideau demanda au général s'il avait vérifié le contenu de son nécessaire de voyage et si quelque chose y manquait.
« Je n'y ai rien remarqué du tout, ma petite femme. J'étais fatigué du voyage et puis ce que j'avais appris de la vie de ce pauvre Deligny, il n'y a rien qui me fatigue plus que de retenir mes sentiments. Et je ne pouvais quand même pas pleurer comme un nigaud devant tout le monde. Et puis, chaque fois que je voyais cet homme si heureux avec ses enfants, je me disais... Et toi, mon pauvre Dourakin, avec ton argent, tes propriétés, tes châteaux, tu es seul, sans personne qui t'aime, sans personne pour hériter de tout cela. Mais j'ai très bien dormi quand même.
Et le général allait partir dans un grand éclat de rire lorsque Torchonnet, qui venait de se précipiter dans la salle, se jeta dans ses bras.
Mon bienfaiteur! Mon père!
Mamoutier, Deligny, pour l'amour de Dieu, délivrez-moi de cette sangsue! Va-t'en, petit drôle!
Jamais, mon père! Je ne vous quitterai que lorsque vous m'aurez reconnu comme votre fils, l'héritier de votre fortune!
Mais ça, c'est ce fou, Moutier!
Moutier saisit Torchonnet et le tira avec une telle force que tout le monde se retrouva par terre, écrasé par le poids impressionnant du général.
Polisson, je vais t'apprendre, moi, à me faire rouler par terre, sous prétexte de m'embrasser.
Pardon, mon bienfaiteur, pardon, mon père. Prenez-moi avec vous, emmenez-moi avec vous.
Si je t'emmenais, misérable, ce serait pour te faire knouter, t'envoyer en Sibérie. Si tu veux le knout, je te ferai prévenir quand je partirai.
Je veux tout ce que vous voulez, mon père.
Ah oui? Eh ben voilà un acompte.
Saisissant Torchonnet par les cheveux, il le traîna avec force coup de pied jusqu'à la porte et le jeta dehors.
C'est méchant de battre comme ça ce pauvre Torchonnet.
En entendant la réflexion du petit Paul, le général fut très gêné. Il fit nerveusement quelques pas dans la pièce, puis se retira dans sa chambre dont il claqua la porte.
Je ne comprends pas le comportement de Torchonnet.
Il s'est mis dans la tête que le général voulait l'adopter. Mais à propos de Torchonnet, le général a-t-il emporté aux eaux une timbale et un couvert en vermeil?
Pas que je sache. Mais pourquoi me posez-vous cette question à propos de Torchonnet?
Madame Blideau allait lui expliquer ce qui s'était passé lorsque la porte du général s'ouvrit.
Madame, vous recevez par la force des choses beaucoup de monde chez vous. J'ai le regret de vous dire, un de vos hôtes est un voleur. Il a profité de mon séjour chez vous pour dérober dans mon nécessaire de voyage d'une timbale et un couvert en vermeil.
Nous étions justement en train de parler de cela. J'ai constaté cette disparition une heure après votre départ.
Et quelqu'un était-il entré dans ma chambre?
Je m'y trouvais en compagnie de Jacques lorsque Torchonnet nous y a rejoints.
Torchonnet?
C'est lui qui a les jolies choses.
Pourquoi dis-tu cela, Paul?
Il me les a montrées. Il m'avait promis de me donner des pralines si je les cachais dans le matelas de Jacques.
Le misérable! Moutier! Allez me chercher ce scélérat!
Si vous le permettez, mon général, avant de vous le ramener, je vais mettre monsieur le curé au courant. C'est lui qui a la garde de l'enfant.
Moutier, sans perdre un instant, se rendit au presbytère. Il commençait à peine à entretenir le curé de l'incident lorsque des cris épouvantables s'élevèrent.
On égorge ma servante!
Les deux hommes se précipitèrent, mais la porte d'où provenaient les cris était fermée de l'intérieur.
Ouvrez! Ouvrez!
Il n'y avait rien à faire.
Passons par la fenêtre.
Moutier la fit voler en éclats. Dans la pièce, un homme qu'il ne reconnut pas au premier abord fouettait au sang avec une lanière de cuir un petit garçon à demi déshabillé. Moutier lui arracha le fouet des mains et il allait lui envoyer un coup de poing à travers la figure lorsqu'il se rendit compte que cet homme était le général.
Vous n'avez pas honte?
Bien sûr que sa colère brusquement tombée, il avait honte. Son sang russe n'avait fait qu'un tour, en apprenant que ce misérable Torchonnet avait voulu compromettre le petit Jacques. Et voyant que Moutier tardait à revenir, il avait décidé d'agir sans plus attendre. Maintenant, très gêné, il regardait tour à tour Moutier et le curé.
« Je vous donnerai 10 000 francs pour ce voleur. »«
L'argent ne répare pas tout, monsieur. Il ne paie pas la souffrance. »«
Que dois-je faire ?»«
Vous repentir. »
Et le général repartit la tête basse, tandis qu'on emmenait Torchonnet dans une chambre voisine pour le soigner.
« C'est très méchant ce que vous avez fait. Moi, si j'étais maman, je vous mettrais dans un coin, au pain sec et à l'eau. »«
Et toi ? Jacques, Aussi, tu trouves que je suis méchant?
C'est pas votre faute. Vous vous mettez tout de suite en colère. Seulement, comme vous avez un bon fond, on est obligé de vous aimer.
Le lendemain, bien qu'il ait mal dormi, le général apparut souriant et heureux.
J'ai écrit à mon traiteur pour commander la noce et j'ai fait demander au notaire de se présenter demain matin.
Le général avait appris que l'auberge d'Épournier était en vente et il avait décidé de l'acheter.
Vous n'auriez pas dû vous précipiter, mon général. Vous allez la payer au moins un tiers de plus que sa valeur.
Oh, l'argent n'a pas d'importance, Moutier. Que voulez-vous que je fasse de mes 600 000 roubles de revenus?
Vous pourriez les employer à faire le bien.
Ah, justement. Je placerai une somme d'argent sur la tête de ce sacripant de Torchonnet pour qu'on prenne son éducation en main et qu'on en fasse un homme. Mais d'après vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour le village?
Ma foi, mon général, je ne connais pas ses besoins. Vous devriez en parler à monsieur le curé. Il est beaucoup plus au courant de ces choses.
Ah, vous avez raison, Moutier. Allez me le chercher.
Je doute qu'après la façon dont vous vous êtes conduit chez lui avec son protégé, mon général, il accepte de venir vous trouver.
Oh, bah très bien, c'est moi qui irai. Oh.